I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 559 du podcast J'en Actu. Alors, Mathieu, très heureux de vous accueillir pour un nouveau débrief de la semaine 15 en NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour, Raphaël.
Salut, Alain. Salut à tous.
Comment ça va?
Eh ben, écoute, ça va, ça va.
T'es pas trop traumatisé, toi t'as la double nationalité.
Voilà, j'ai la double nationalité, ce qui m'a permis de voir finalement trois Coupes du Monde gagnées depuis 98, donc j'arrive à m'en remettre, in fine.
Très bien joué.
Non, mais je trouve que le scénario du match permet d'atténuer un peu la déception, parce que c'était déjà un miracle de miracle d'arriver au penalty, quoi, au tir au but.
Je vais te dire, alors moi, en plus tu me connais, hein, donc t'es témoin, mais je suis pas le foot en dehors de l'Euro et de la Coupe du Monde, grosso modo. Mmh. Et ben je te jure, ça m'a jamais fait ça. Je me suis réveillé trop. Je te jure que c'est vrai, hein, c'est pas une ânerie, je te l'avais même pas dit avant qu'on en parle à l'antenne, mais je me suis réveillé trois fois cette nuit, et à chaque fois je repensais à des actions du match. Genre, mais c'est un délire, quoi. J'étais matrixé par le match. Je me suis réveillé, genre, je repensais à la frappe de Colomouani qui rentre pas, tu vois, un truc comme ça.
Ouais.
Je revivais ou je re-rêvais, je sais pas trop. J'étais dans une sorte de Twilight Zone, quoi. Des trucs. Je pensais pas qu'un match de foot pouvait me marquer autant, mais visiblement, je suis traumatisé jusqu'à mon subconscient et jusqu'à la nuit. Donc voilà, ça nous donne du coup des bouleversements aussi pour cette émission, puisque vous l'avez vu, et je m'en excuse encore, le fauteuil a été honteusement saccagé, donc on a des Blairy fait aucun match de jeudi et aucun match de samedi pour l'instant. Vous aurez un des matchs de samedi dans cette émission, puisqu'on va parler de l'improbable remontada des Vikings dans ce débrief avec Raphaël. Et puis, de toute façon, vous aurez tous les débriefs au total, évidemment, vous savez bien qu'on ne vous abandonne pas. Vous aurez tous les débriefs dans ce podcast et dans celui de demain avec tout le reste de la bande. Donc, il y aura 4 matchs aujourd'hui, 12 matchs dans l'émission de demain. On va parler de la remontée, on va parler d'une surprise, on va parler d'une équipe improbable aux portes des playoffs et on va parler d'un vétéran un peu en difficulté, d'un prétendant AFC. On va commencer tout ça avec la surprise, Raphaël. Jaguars 40, Cowboys 34. Les Cowboys étaient quand même largement favoris, ou en tout cas confortablement favori, on va dire. Et pourtant, défaite en prolongation sur une interception retournée pour un touchdown en plus. Dallas menait 27-10 dans le troisième quart-temps. Derrière, ils prennent 3 touchdowns à la suite des Jaguars, un field goal pour aller chercher la prolongation et l'interception gagnante, on l'a dit, pour Jacksonville. Raphaël, est-ce que ça commence à être inquiétant pour les Cowboys qui avaient déjà eu du mal contre les Texans la semaine dernière et on s'était dit, bon, alors, ça arrive sur un match?
Ouais, oui, c'est forcément un peu inquiétant cette incapacité à, en tout cas depuis au moins 2-3 semaines du côté de Dallas, à 2 semaines disons, à dominer largement ces matchs et à conclure surtout, parce que là ils auraient dû, Ouais, ce qui est embêtant, c'est que c'est peut-être l'attaque qui est sur un régime un peu étrange. Ça gagne beaucoup de yards facilement au début de match, et après, en fin de match, ils calent complètement, notamment avec des third and out assez incompréhensibles. Ils rendent la balle très très vite à chaque fois quand ils ont sur les deux trois dernières séries notamment. Avec un play calling peut-être un peu hasardeux, tu cours en première, tu cours en deuxième et après tu tentes une passe. Bon, c'est un peu old school pour le coup. Dallas nous avait habitué à un peu mieux, et notamment Kellen Moore, leur coordinateur offensif, je trouve, nous avait habitué un peu plus original que ça. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis, il y a eu des problèmes sur la ligne offensive, il y a des problèmes. Et le pass rush a été moins dominant en deuxième mi-temps qu'il n'a pu l'être en première.
Donc en fait, tout s'est écroulé d'un coup.
Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais, je trouve que tout le château de cartes, toutes les bases et les fondements de Dallas se sont écroulés d'un coup sur ce match. Et même, je dis plus que d'un coup sur ce match, je dirais d'un coup sur ce troisième quart et quatrième quart. Donc ouais, là, c'est toujours pareil. Est-ce que dès la semaine prochaine, ça peut aller mieux? C'est probable, parce que les Cowboys il y a quand même du talent. Mais voilà, ça rassure pas, finalement, ça rassure pas sur la régularité de cette équipe qui n'arrive toujours pas à la trouver vraiment.
Mais tu le dis bien, en fait, c'est pour ça que je te demandais si tout s'est écroulé d'un coup, c'est que l'un alimente l'autre à chaque fois, parce que tu disais, il y a des three and out rapides, donc en fait, l'attaque sort rapidement, la défense est en difficulté, et en plus, elle n'a pas le temps de souffler parce que l'attaque ressort rapidement, et ainsi de suite, et ça entraîne ta chute au fur et à mesure. Ils n'ont qu'un seul sac sur ce match, ils prennent plus de 500 yards. C'est vrai quand même que la défense était censée être leur point fort depuis le début de la saison, et ça s'effrite un peu sur ces derniers temps. Est-ce que t'es plus inquiet de ça ou est-ce que t'es plus inquiet de l'attaque ?
Écoute, moi je suis peut-être un peu plus inquiet par la défense. Non pas que je trouve qu'elle a pas forcément le potentiel pour rebondir, mais plus inquiet par cette défense parce que pour moi c'était vraiment c'était devenu le facteur X qui permet de bonifier ce que peut faire cette attaque et de s'assurer des victoires compliquées, on va dire. Or là, une fois que le pass rush est limité, bah mine de rien, cet arrière-garde, ce backfield défensif, il est un peu plus à découvert, et on se rend compte que bah les cornerbacks de Dallas, c'est pas non plus des shutdown corners, c'est pas les meilleurs cornerbacks de la ligue. Alors tout va bien quand Parsons, DeMarcus Lawrence, etc. mettent le quarterback adverse sur les fesses, c'est plus facile pour eux. Et quand ils n'y arrivent plus, ça montre la faiblesse de cette équipe à ce niveau-là. Et c'est peut-être là où ça m'inquiète le plus, parce que oui, encore une fois, Prescott est pas exceptionnel, l'attaque se tire des balles dans le pied, mais à la fin il y a quand même encore plus de 30 points marqués par cette attaque. J'ai toujours du mal à tirer sur une attaque qui va mettre ses 30 points dans un match. Alors oui, il aurait dû avoir moins de punts, moins de third and out, mais les mecs, à mon sens, ils font quand même une partie du taf, enfin ils font leur mission quoi.
Et puis tu te dis que les interceptions, notamment de Dak Prescott, parce qu'il est sur un rythme assez étonnant, hein, il est sur 11 interceptions en 9 matchs, sa pire saison c'est 13 interceptions en 16 matchs, mais ça se corrige en un sens, tu vois, tu peux repartir sur un meilleur rythme, alors que la défense qui autorise 7,1 yards par course est sur 27 courses, hein, pas sur 5, c'est plus embêtant, ils prennent 192 yards sur le nez. Après, ça reste une équipe qui est quand même très bien armée dans l'ensemble. Ils sont à 10-4. Voilà, on va pas tout jeter tout de suite. Mais ça fait un peu une NFC un peu incertaine quand même derrière Philadelphie et San Francisco, qui semblent les deux équipes un peu stables du moment. Mais derrière, on va le voir d'ailleurs avec d'autres équipes dont on va parler. Il y a une NFC un petit peu mouvante, un peu incertaine, c'est un peu étrange. Il faut quand même évidemment rendre hommage aux Jaguars, 3 victoires en 4 matchs, pas contre n'importe qui, hein. Ravens, Titans, Cowboys, leur défaite sur les 4 matchs c'est contre les Lions, qui sont très très chauds. Ils sont à un match de la première place de leur division, et ça aussi il faut le dire. Est-ce que le plus fou, Raphaël, c'est qu'on dit ils sont à un match, mais ils ont l'air d'avoir une chance surtout.
Ils ont totalement l'air d'avoir une chance, parce que le calendrier restant, c'est Jets, Texans, Titans. Donc les Jets et les Titans sont deux équipes. Alors, je crois pas qu'ils puissent accrocher une place en wildcard, un septième strapontin. Donc j'ai envie de dire que les Jets sont pas un vrai ennemi direct dans la course au playoff. C'est plus une victoire à prendre pour y aller. Mais ils rencontrent les Titans en dernière journée. Et quand on voit la dynamique du côté de Tennessee actuellement, à l'inverse, celle de Jacksonville, ça paraît vraiment pas fou d'imaginer les Jaguars passer Tennessee au buzzer. Hein.
D'autant que là, je prends de l'avance, mais je vais tout de suite dire le calendrier. Les Titans ont donc un match d'avance, mais ils ont perdu leur premier match contre les Jaguars. Et derrière, ils jouent Texans, Cowboys, Jaguars. Donc, il y a quand même un scénario où ils perdent contre les Cowboys et contre les Jaguars à la fin. Et ça fait Jaguars vainqueur de division. Ou alors, s'ils gagnent Texans, Cowboys et qu'ils jouent une sorte de finale contre les Jaguars, si les Jaguars gagnent et qu'ils sont à égalité en haut de la division, le tiebreaker est pour Jacksonville puisqu'ils auraient gagné. Donc, il y a une vraie chance. Hein. On ne parle pas de ça pour faire du... monter un buzz ou quoi, c'est que cette division est très mauvaise, il faut le dire aussi, donc c'est pour ça qu'il y a un vrai suspense. Ceci étant dit, encore une fois, ils sont pas du tout mauvais sur ce match, les Jaguars, ils sont même très complets, on l'a beaucoup dit. Trevor Lawrence, il y a un 8 sur 12 sur 3ème tentative quand même qui est plutôt intéressant. Trevor Lawrence, 27 sur 42, 318 yards, 4 touchdowns, 1 interception, 192 yards au sol. On a quand même, on disait souvent, ah tiens, là il y a eu un petit match de Lawrence par-ci, un petit match de Lawrence par-là, là il commence à y avoir un truc quand même qui se crée de plus en plus consistant quand même avec Lawrence. Les traits pointillés se rapprochent, j'ai l'impression, de plus en plus.
Oui, exactement. Bah, depuis 3-4 semaines, finalement, depuis qu'ils se mettent à enchaîner des victoires, on voit un Trevor Lawrence de plus en plus régulier, qui va chercher les grosses actions, qui est précis. Donc effectivement, je te rejoins sur le côté progression maintenant qui a l'air d'être linéaire, mais dans le bon sens du terme, presque exponentiel quoi. Je suis pas sûr que linéaire exponentiel, je pense qu'il y a une différence, mais je suis vraiment pas matheux, donc je pense que voilà. Pas, excusez-moi du coup pour cet abus de langage, mais en tout cas oui, la progression elle est assurément visible et c'est devenu un vrai leader et je trouve ça pas mal. La semaine dernière c'est Evan Engram qui le fait briller, cette semaine c'est Zay Jones, donc en plus il arrive à utiliser les bons match-up au bon moment. Il est capable, il n'est pas focus sur une seule, c'est peut-être l'avantage de ne pas avoir de méga star non plus, à quelque part il n'est pas focus sur une seule star et il distribue bien aidé par le sol et puis donc ouais moi je te rejoins, je trouve que c'est de plus en plus consistant.
Il y a une vraie philosophie en plus quoi, c'est du sol, c'est Lawrence qui distribue, c'est voilà, ça commence à prendre forme. Je trouve ça hyper intéressant et prometteur. 6 victoires, 8 défaites. Je pense que si on leur avait dit 6-7 victoires début de saison, ça signait quoi, c'était dans la progression, ils sortent quand même de deux premiers choix de la draft à la suite, donc ils partent de loin. Et en défense, tu as toujours ces jeunes playmakers en fait quoi qui surgissent c'est pas encore hyper régulier, ils prennent 34 points, hein, on l'a dit, mais t'as toujours quand même ces jeunes playmakers qui se montrent de plus en plus. C'est ça aussi, c'est hyper intéressant. Tu construis des bases.
Ouais, effectivement, c'est ce qu'on voit, hein, comme tu le dis, de semaine après, enfin oui, semaine après semaine, on peut le dire, avec ces jeunes playmakers. Encore jeune et un peu moins jeune, parce que Josh Allen, par exemple, commence à avoir un peu de bouteille, on va dire.
T'as raison, en plus, il a 25 ans.
Voilà, toute proportion gardée, mais il commence presque en NFL, quand t'es à plus de 3 ans, t'es déjà presque un, j'ai envie de dire, quelque part presque un vétéran de la NFL. Donc oui, c'est un mélange entre jeunes talents et joueurs déjà un peu plus expérimentés. Ils sont dominants sur les lignes, et enfin sur la ligne défensive, en tout cas le front 7, et c'est ce qui permet, je pense, de pour le moment aussi d'aider à masquer peut-être un backfield défensif un peu plus faible. Mais il faudra construire pour l'améliorer, de toute façon c'est l'objectif, donc
bon, Dallas qui reste fermement en course aussi, hein, pour les playoffs évidemment. Ils sont même déjà qualifiés, oui ils sont déjà qualifiés d'ailleurs, je voudrais pas dire une bêtise, je vais me remettre le classement pour m'assurer de pas vous dire de bêtises, mais oui, Dallas est déjà qualifié pour les playoffs malgré la défaite, ça doit être par le jeu des défaites des autres, etc. Du côté justement de la NFC Est, les Giants et les Commanders se retrouvaient 20-12 pour les Giants qui se retrouvent quasiment en playoff. Eux n'y sont pas, mais ils ont vraiment très bien augmenté leur pourcentage de chances d'y aller. C'est pas une victoire flashy, c'est une victoire défensive. Les Commanders ont eu 2 possessions pour passer devant ou égaliser en fin de match. Ça s'est terminé par un fumble et un échec sur 4ème tentative. Raphaël, ça gagne, mais on va pas dire qu'on est impressionné.
Non, et effectivement, j'avoue, c'est moi qui voulais mettre notamment ce match dans ce premier podcast pour les chances et les pourcentages de chances des Giants d'aller en playoff. In fine, le vainqueur de ce match augmentait, et c'est quasiment 90% de chance, hein, le vainqueur de ce match avait 90% de chance d'aller en playoff plus tard. Là, on va voir si les statistiques sont démenties, mais en tout cas ça augure quand même quelque chose de bon pour les Giants. Et c'était pour Et comme tu l'as dit, on n'apprend rien de New York. Un gros front seven, un Saquon Barkley qui fait quelques actions clutch, et puis on espère que ça tient, et ils y vont. Donc encore une fois, bravo à Brian Daboll, parce que je pense sincèrement que tous les coachs pourraient pas avoir ce bilan-là avec cet effectif-là, notamment offensif. Mais bon, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage un peu étonnantes, mais ça a été la thématique du week-end, hein, encore une fois, oui, malheureusement. Là,
on va en parler dans d'autres matchs, mais on peut le dire. Hein, il y a cette interférence défensive à laquelle tu penses en fin de match sur Jan Dodson.
Il y a effectivement celle-là, et je pense même à la conversion à deux points qui est annulée parce que les arbitres considèrent que Terry McLaurin n'était pas en formation, alors que Terry McLaurin se tourne vers les arbitres et leur demande « c'est bon, je suis bien positionné », l'arbitre lui dit « oui », et derrière, il le sanctionne. Bon, c'est un peu embêtant. Quand le joueur en plus fait l'effort de savoir s'il était dans la bonne position, c'est tout de suite plus embêtant. Mais
c'est même un touchdown, hein, qui a annulé.
C'est le touchdown, pardon. Oui, j'avais
la conversion à la fin.
Ouais. Quand on voit à quoi ça s'est joué, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas le seul match ce week-end qui se joue là-dessus, donc mais effectivement. Donc oui, non, pardon pour cette digression, mais pour revenir, New York fait du New York, mais ça réussit cette saison et ça c'est incroyable de voir où ils en sont. Donc bon.
Après, on voit, c'est un peu Kevin Thibodeau, la star de ce match, parce qu'il marque un touchdown sur une action défensive. Dexter Lawrence est aussi là. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça qu'on retient de ce match, c'est que les Giants, en fait, leurs espoirs, pour l'instant, là où ils construisent, c'est en défense, clairement. Thibodeau en plus, ça continue de se renforcer. Mais je trouve qu'on a toujours vraiment aucune perspective sur l'attaque de cette équipe. C'est-à-dire que j'ai aucune idée. Tu vois, tu peux te dire que leur défense, l'an prochain, il y aura Thibodeau, il y aura des mecs comme ça construit, etc. Je sais même pas à quoi va ressembler cette attaque l'année prochaine. Donc c'est un miracle en fait qu'ils soient en playoff s'ils y vont. Parce que là t'as Daniel Jones qui a 160 yards en 32 passes lancées. T'as Saquon Barkley, tu le disais, bon bah voilà, ça finit par passer. Mais bravo à Brian Daboll, parce que moi je trouve que vraiment cette attaque, enfin tu vois la liste des mecs qui ont capté des ballons, c'est Richie James, Isaiah Hodgins, Darius Layton, Nick Vanette, Matt Breda, Daniel Bellinger, quoi.
Ouais, non mais oui. Oui, oui.
Il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi.
Après, j'ai envie de te dire que l'avantage, c'est que le domaine, le champ de construction de l'intersaison, il est ciblé, il est facile.
Là, c'est clair.
Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, tu sais qu'il faut des skill players à ton équipe. Parce qu'in fine, la ligne offensive a progressé cette année. C'est pas une grosse ligne offensive, attention. Hein. Mais elle a progressé par rapport à l'an dernier. Bon, t'as la question du quarterback qui reste un gros sujet. Mais disons, quarterback et skill player, au moins, t'as ton champ d'intervention, quoi.
Ouais, et puis il prend 0 sac hein, quand même, ce qui est toujours bien contre une équipe comme Washington. Les Commanders, quand même, ça laisse passer une occasion en or, parce que tu l'as dit, ils sont pas aidés par les arbitres, il y a l'interférence, il y a le touchdown défensif, etc. Mais même sans ça, j'avoue que j'ai du mal à pas penser qu'ils auraient pu battre ces Giants. C'est-à-dire que... alors, ils sont toujours en course, ils sont 7e hein, officiel au moment où on se parle, donc ils sont vraiment toujours en course, mais... ils avaient une très belle occasion et j'ai du mal à me dire, justement, on parlait de skill player, Jahan Dodson, Terry McLaurin, Curtis Samuel, Brian Robinson, ils avaient de quoi faire, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont limités un petit peu par Tyler Heinicke? On le savait.
Oui, Tyler Heinicke, mais moi, j'ai aussi envie de dire le coaching.
Aussi.
Pour moi, Washington, c'est en gros, en dehors de la position de quarterback qui est compliquée, mais c'est ce que les Giants pourraient espérer être l'an prochain avec des nouveaux skill players, tu vois, avec en trouvant un McLaurin, en trouvant un machin. C'est une grosse défense, en tout cas une défense solide, et après des skill players, ce que New York n'a pas, mais ce que les Commanders ont. Et la différence, comme tu l'as dit, la différence entre les deux équipes et la perdante, c'est Heinicke, mais je suis pas sûr qu'Heinicke soit vraiment moins bon que Daniel Jones. Donc après, pour moi, ça pointe encore une fois, et une énième fois, vers le banc, et je pense que Ron Rivera est un mec sans doute très sympa et un coach solide, on va dire rigoureux, qui permet d'avoir des bases et des fondements solides. Mais quand on rentre dans le dur, quand il faut apporter quelque chose en plus à son équipe, il n'en est pas capable. Et pour moi, la différence, elle se fait là sur ce match.
Clairement. On passe au plus grand comeback de l'histoire, maintenant pas de la Coupe du Monde de foot, mais de la NFL. Vikings 39, Colts 36. Alors là, si vous n'avez pas vu ce match... je viens de vous dire 39-36. Imaginez-vous qu'il y avait 33 à 0 pour les Colts dans ce match et qu'ils perdent donc 39-36. Ils ont pris un 39-3 après avoir mené 33-0. Victoire des Vikings sur un field goal à la dernière seconde de la prolongation. On n'est vraiment pas passé loin du match nul. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Colts, Raphaël ? Parce que c'est un peu la seule question qu'on peut poser quand une équipe mène 33-0. C'était à la mi-temps ou les 33... Il y a un field goal juste après, je crois.
Ouais, pas loin.
Non, c'est ça, 33-0 à la mi-temps et ensuite 36-7.
Objectivement, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est un retard qui est irrattrapable normalement. C'est pas pour rien que c'est le plus gros comeback de l'histoire. C'est qu'il est pas censé arriver de manière si évidente. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les Colts ont lâché en défense, ont moins bien couru. Matt Ryan a perdu des ballons de nouveau. Enfin. Ouais.
Alors, je te donne les stats parce que des fois, il y a aussi ça. Hein. L'attaque, c'est 132 yards sur les 40 dernières minutes, c'est-à-dire la deuxième mi-temps plus la prolongation. La défense prend des gros jeux à l'appel. C'est aussi simple que ça aussi, quoi. Ils se sont vraiment écroulés.
Oui, non, mais voilà. Après, comment on explique cet écroulement, je sais pas.
Ah bah ça,
mais là, en tout cas, ils se sont écroulés, ouais, c'est clair. C'est...
Si on était méchant, on dirait Matt Ryan parce que c'est le facteur commun entre le 28-3 et ce match. Mais là, il y a même pas Kyle Shanahan. On peut pas dire que c'est le coordinateur offensif qui. Non, mais c'est. Alors, on l'explique comment ? On l'explique aussi parce qu'il y a les Vikings en face et qui sont tout aussi illisibles en fait.
Ouais.
En un sens, parce que on parle quand même mine de rien. Ça arrive pas contre n'importe quelle équipe de cette année. Ça arrive contre l'équipe dont on sait qu'elle peut jouer un carton et puis pas le suivant et puis mettre 10 touchdowns de suite et puis ensuite faire 10 punts. Et c'est ça aussi parce qu'en fait les Vikings ils sont menés parce qu'il y a beaucoup d'erreurs des équipes spéciales. Ils prennent un touchdown sur un punt bloqué. Il y a une interception, mais c'est pas vraiment la faute de Kirk Cousins. Et en fait derrière ils prennent feu. Et puis bah Justin Jefferson prend feu, les touchdowns c'est quoi, KJ Osborne, CJ Ham, Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook sur une course de 64 yards complètement folle. Et voilà, et en fait bah en deuxième mi-temps ils disent ah ouais mais en fait on est super fort, on a plein de talent. Puis ils font ça.
Oui, non mais c'est vrai que c'est à l'image de cette saison des Vikings hein, qui est quand même une équipe à un bilan maintenant de 11-3 avec un différentiel de points de plus 2 je crois ou moins 2. Sur la saison. Voilà, donc pour dire à quel point c'est quand même sur une ligne rouge, sur un fil tendu en permanence. Mais oui, c'est une équipe, il y a du talent, il y a des gros skill players. Donc ils arrivent à remonter et visiblement, manifestement, Kevin O'Connell a réussi à donner confiance à cette équipe. Ça, alors autant sur le. On peut lui reprocher de ne pas avoir une équipe régulière, c'est certain. Autant on peut, je pense, mettre à son crédit le fait de réussir à garder mobiliser son équipe et à lui avoir insufflé l'idée que c'est jamais fini et que et qu'ils peuvent remporter n'importe quel match et ça se voit dans le bilan parce que statistiquement, j'ai presque envie de dire que avec autant de matchs qui se jouent à si peu de points d'écart, ils devraient pas être à 11-3 en fait. Enfin.
Bah oui, non, mais c'est ça reste l'étrangeté de cette saison. Hein, de toute façon, après. Ouais, la défense s'est énervée aussi en deuxième mi-temps et ils sont comme l'attaque, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils disent ouais, on est des vétérans, on est quali, on peut y arriver. Apparemment, l'anecdote là qui revient dans tous les médias US, c'est que Patrick Peterson a été le meneur en fait pendant la mi-temps, aurait répété à tout le monde il vous faut 5 touchdowns dans l'attaque et nous on se charge du reste. Bon, bah c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce qui est dinguissime, c'est que les mecs ils puissent l'annoncer quoi. Ils sont menés 33-0, ils font ah, il nous faut 5 touchdowns, on va le faire, tu vois. Ok, bon, très bien.
Ouais.
Après voilà, après on parlait d'arbitrage. Clairement dans celui-là, on a eu un festival aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux touchdowns, qui sont refusés aux Vikings pour des coups de sifflet, mais alors hyper prématurés. On parlait de la Coupe du Monde de foot. Maintenant les mecs, il y a un hors-jeu, ils laissent jouer 14 minutes et puis ils reviennent dessus. En NFL, on siffle tout de suite.
Alors qu'il y a la vidéo depuis bien plus longtemps et qu'on est habitué à la vidéo normalement et qu'on pourrait se dire bah revoyons l'action, la vidéo, voyons.
C'est ça, on s'est moqué sur le chat de la rédaction en disant que c'était un peu le concours à celui qui utiliserait le moins bien la vidéo, c'est-à-dire que dans les deux cas c'est délirant quoi. Donc ouais, c'est honteux. Après on voit aussi cette quatrième et un là complètement dingue pour
de
les
Matt Ryan, ouais. Qui aurait pu permettre aux Colts de s'en sortir in fine.
C'est ça. Ils avaient un touchdown d'avance à ce moment-là. Ça doit leur permettre de finir de faire tourner le chrono. Et puis là, c'est pareil, on se pose quand même des questions vu qu'on est dans l'arbitrage. À quel moment, j'en reviens à la Coupe du Monde de foot parce que c'est l'actu, mais on les voyait présenter leur nouveau hors-jeu là, où tu vois l'image modélisée, l'arrière de la fesse droite de Varane couvre le hors-jeu à 1 cm machin. Nous, on est là, il y a 14 mecs qui se jettent les uns sur les autres, on fait.
Ouais, la balle, elle doit être là, ouais.
On va prendre une chaîne et puis on va placer le ballon un peu à l'arrache, tu vois. Et puis, attendez, genre, il y a des puces dans les ballons, il y a des trucs. Comment ça se fait qu'on n'ait pas encore un capteur et un machin pour savoir s'il a passé le truc du first down, quoi? C'est tragique en termes de modernité, en fait, quoi.
C'est, oui, oui. Ouais, non, c'est assez tragique. Et ce week-end, vraiment, ça a été tragique sur beaucoup, beaucoup de terrains. C'était pas très plaisant à voir que les arbitres aient autant un impact sur un résultat final, là. C'était vraiment.
Ah ouais, non. Et puis tu sais, en plus le foot, ils avaient cette excuse de oui mais le foot des campagnes, ils peuvent pas avoir la vidéo, il faut que ça reste proche. Mais il n'y a pas de foot américain des campagnes quoi, en vrai. C'est soit tu joues à la fac à l'école, soit tu joues en NFL et après voilà, sinon tu joues dans ton jardin avec des potes, mais vous êtes trois donc ça va, vous en voudrez pas s'il y a pas la.
Non mais...
Ouais, c'est délirant quoi. La NFL elle a arrêté d'avancer il y a combien maintenant sur la vidéo, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que la vidéo elle est là depuis toujours.
Enfin, oui,
je suis quoi.
Oui, pareil.
Mais il y a eu aucun changement. C'est genre on n'avance plus quoi. C'est ouais. Le coup des chaînes, c'est quand même un truc moi qui me terrasse à chaque fois de voir deux papis qui rentrent avec leur petite chaîne, tu sais, sur le terrain. Bon, il devait être à peu près là le mec au milieu des 12 autres là. Genre,
ouais, non mais c'est clairement sur le truc de Matt Ryan, c'était assez fantastique de voir. Il n'avait aucun angle pour voir où était positionné le ballon, mais on le positionne et on se dit bah non, il y a pas first down. Écoutez,
après. Je dois avouer que le truc qui me fume le plus, c'est le coach qui challenge.
Oui.
Parce qu'il,
ah oui,
il, je crois que visiblement, lui, il a découvert encore plus récemment que nous. Puisqu'on sait quand même qu'il faut, comment ils disent, des preuves évidentes
pour
changer la décision. Vu que déjà, ils ne savaient même pas comment placer le ballon, ils ne vont pas regarder le ralenti et faire « Ouais, en fait, non, on rechange. »
Oui, non, c'était sûr.
C'était le challenge le plus perdu d'avance, quoi.
Ouais.
Bon, en tout cas, Indianapolis s'enfonce. On verra bien ce que ça donne pour la suite. Ils sont à 4-9-1, donc là, il n'y a plus de playoff pour eux. L'intrigue, ça va surtout être de savoir s'ils gardent Jeff Saturday pendant l'intersaison.
C'est clairement
le truc. Et puis, Minnesota continue de filer vers les playoffs. Minnesota est même qualifié pour les playoffs au moment où on se parle. Ils sont deuxième, donc, de la conférence NFC. Deuxième, je rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié, mais maintenant qu'il y a 7 équipes en playoffs, ça n'ouvre plus une semaine de repos. Il faut être premier. On termine avec les Bengals, 34, Buccaneers, 23. Les Bengals qui étaient menés 17-0, c'est le thème, hein, les remontées cette année en NFL. Ils étaient menés 17-0 dans le second quart, et là, bam, ils marquent 34 points de suite, et c'est fini. Est-ce qu'il y a une vibe un peu Chiefs qui se dégage de cette équipe, Raphaël, avec cette capacité à accélérer? J'ai l'impression que les Bengals ont de plus en plus ça.
Ouais, je vois ce que tu veux dire par là. C'est vrai qu'ils ont cette capacité grâce à leur skill player dans tous les sens à accélérer au moment voulu et au moment opportun et à vraiment enfoncer le clou. Donc oui, il y a, pour répondre à ta question, oui, il y a une vibe Chiefs, je trouve aussi.
Et accélération en attaque, mais là pour le coup, eux en défense, ils prennent des points, je crois, sur tous les drives de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils commencent avec un échec sur quatrième tentative. Bon, c'est un fake punt, mais derrière, ils forcent interception, fumble, interception. 4 pertes de balles de Tom Brady en 4 séries, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Hein.
Non, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Là-dessus, moi, je suis même plus surpris en fait, par les ajustements défensifs des Bengals. Et ce n'est même pas cette saison, ça date de l'an dernier déjà. Rappelez-vous, en finale AFC, ils étaient derrière au score face aux Chiefs et ils sont revenus parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont complètement serré en défense. Ils avaient fait une bonne partie de la saison. Ils le font de nouveau cette saison. C'est l'équipe, l'an dernier, en tout cas cette année, j'ai pas encore vérifié, mais l'an dernier, c'était l'équipe qui prenait le moins de points dans le troisième et quatrième quart-temps. Voilà, il s'ajuste très très bien. Alors, bien sûr, Tampa Bay se saborde aussi un peu parce qu'il y a des pertes de balles un peu bêtes, un peu malchanceuses, et tout n'est pas du fait de la défense de Cincinnati. Enfin, je veux pas faire croire que la défense de Cincinnati provoque 5 pertes de balles quand elle veut le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, c'est une équipe qui s'ajuste très très bien en défense grâce à son coordinateur défensif et il le montre semaine après semaine au retour des vestiaires, c'est rarement la même équipe et t'as intérêt à être bien préparé pour contrer leurs nouveaux ajustements de mi-temps parce que souvent le jeu est refermé et défensivement quand ils sont à ce niveau-là en défense, bah en AFC ils ont quand même une belle tête d'équipe pas loin de la finale quand même.
Ah bah on a beaucoup parlé Chiefs, Bills depuis le début de la saison. Là, moi, je trouve que c'est un trio maintenant en AFC.
Bah, je trouve aussi, ouais. Je
quand t'as un beau trio. Franchement, les playoffs ils vont être fous en AFC.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi, ces ajustements et c'est capital parce que ça permet à l'attaque. Alors je disais oui, il y a une accélération et ils marquent, mais en fait ça permet à l'attaque de gagner en faisant les minima parce qu'ils gagnent avec 237 yards seulement. Joe Burrow lance que pour 200 yards, ils ont que 53 yards au sol. Donc en fait oui, ils sont plus impressionnants défensivement sur ce match. Et tu le dis bien, on voit que les Bills ont quelques difficultés offensives cette année, par exemple. Mmh. Si tu te retrouves face à des Bengals qui s'ajustent très bien en défense en playoff, tu vois, les Bills, peut être compliqué. Les Chiefs qui perdent deux fois contre les Bengals, ils peuvent commencer à faire un petit complexe aussi et à cogiter. Donc, hyper intéressant. Après, du côté des Buccaneers, du coup, alors je te donne la stat, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, parce que évidemment, Tom Brady qui mène d'au moins 17 points à domicile, c'était 89 victoires et 0 défaites jusque-là.
Pas très surpris.
Évidemment, après, je pense que ça marche avec beaucoup de monde s'il mène de 17 points. En général, tu gagnes le match, c'est vrai que plus souvent. Bon, donc c'est sa première défaite dans ces cas-là. Je pense que la stat les plus folles, c'est même pas les 89 victoires, c'est que les Buccaneers sont à 6 victoires et 8 défaites et ils sont leaders de leur division et en playoff au moment où on se parle.
Ouais, bah ça c'est l'avantage du système de division, hein. Tu peux attendre gentiment et prendre une division pas terrible, clairement, parce que il y avait d'autres équipes dans la division qui avaient des opportunités de se relancer ou de se repositionner qui les ont pas forcément saisies. Oui, ils sont en tête de cette division. Et sur la première mi-temps, t'as presque envie de dire et de comprendre pourquoi et de te dire qu'ils peuvent la remporter sur leur première mi-temps. Mais malheureusement, derrière, ils ont pas tenu et notamment offensivement, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, défensivement, ils encaissent beaucoup de points sur ce troisième quart notamment. Mais en même temps, quand je regarde les touchdowns de Cincinnati repartent des 31 yards de Tampa Bay, des 13 yards de Tampa Bay et des 39 yards de Tampa Bay. À chaque fois, les touchdowns de Cincinnati sont déjà depuis... Enfin, le drive commence dans le camp des Buccaneers. Donc, disons que l'attaque a vraiment compliqué le travail de la défense. Et c'est étonnant que ça se soit écroulé comme ça en deuxième mi-temps des deux côtés. Donc, ils risquent d'aller en playoff, mais je vois pas par quel miracle ils s'en sortent en playoff, sincèrement. Je vois pas comment ils font un run. À part la croyance mystique en Tom Brady, tu vois, mais.
Oui. J'allais dire, à part la vibe improbable, genre Cardinals, l'année Kurt Warner, là c'était 2009, je crois. Ouais. Où ils sortent, où on dit qu'ils sont pourris, qu'ils vont se faire éclater.
Oui,
mais,
bien sûr. Ça...
Mais oui, je suis comme toi, après, hein, c'est très compliqué pour cette attaque, ils ont des sursauts, mais on a du mal à y croire. Bon, et puis après, il faut encore se qualifier, c'est ça le pire, on parlait des Jaguars qui étaient dans la course. Mais donc là, on est avec des Buccaneers en tête à 6-8. Suivi des redoutables Panthers de Sam Darnold à 5-9, suivi des redoutables Saints d'Andy Dalton à 5-9, suivi des redoutables Falcons de Desmond Ridder à 5-9. Donc il y a trois équipes à un match derrière Tampa. On vit une saison tellement folle. Ils jouent les Panthers et les Falcons, les Buccaneers en fin de saison.
Ça devrait aider à décider, à faire la décision, ça. Hein.
Ouais, ça va être. Ils ont perdu un match contre les Panthers. Hein. Donc imagine, ils perdent contre les Panthers. Moi, je pensais que les Panthers, là, tu vois, pouvaient revenir.
Moi aussi, je pensais sincèrement.
Cette semaine-là, je pensais que c'était la semaine ou jamais. C'est peut-être un match, vous en parlerez demain, mais celui contre Steelers, là, qui perdent, les Panthers, ils vont le regretter, à mon avis. Mm. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet. Eh bien, écoute, ça fait la transition vers demain, justement, puisque c'est la fin de cet épisode 559. Vous parlerez de tous les autres matchs de la semaine 15 demain avec Lucas à l'animation. Raphaël et Greg à la consultation.
Ouais. Disons ça comme ça.
Au consultant, en consultant. Voilà, c'est ma mini bye week. Je m'absente. Je crois que je l'ai dit dans le fauteuil. Je vais faire la fête, Noël et tout, moi, pendant toute la semaine, et je vous reviens pour faire les matchs. Les matchs et le fauteuil. Fauteuil avancé à vendredi. Et au moment où on enregistre, je te le dis, Raphaël, je n'ai aucune foutue idée de ce que je vais mettre dans ce fauteuil. Voilà.
Fauteuil, on va être quoi, semaine 16?
Ouais, vendredi 23 décembre, du coup. Je ne sais pas. Faudrait que je trouve un invité, ça pourrait être pas mal. Et puis, non, je sais pas, j'aime bien faire le thème des cadeaux de Noël pour les franchises NFL. Je le fais tous les ans dans le fauteuil en général. Tu sais, genre, on leur offre un receveur, une défense, un machin, tu vois. Ça peut être des priorités. Ça permet de définir les priorités aussi pour ceux qui commencent à être hors course, là, tu vois.
Tout à fait. Oui, bah écoute.
c'est un peu un marronnier, tu vois, c'est un truc de feignasse, mais. Mais bon, on va voir, on va réfléchir à
mais
ça.
Mais c'est la première fois que tu le feras sur Twitch.
Ouais.
Ah bah voilà. Eh bah voilà, tu vois, ça valait le coup de.
Exactement, exactement. Merci beaucoup de me trouver une excuse. C'est comme ça donc qu'on termine le 559. Pour nous suivre, tdactu.com, vous avez tous les réseaux sociaux et tous les liens pour le podcast. Vous retrouvez donc demain toute l'équipe pour le débrief de la semaine. Merci beaucoup Raphaël. Bonne émission à toi demain et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.